La victoire sur nos ennemis intérieurs. La semaine passée, on a vu comment David, après avoir vaincu Goliath, après avoir vaincu les Philistins, s'est retrouvé face à un ennemi auquel il ne s'attendait pas. David avait eu la victoire sur Goliath, sur les Philistins, mais il y a un ennemi qui est arrivé dans le décor et il ne s'attendait pas et il a dû fuir devant cet ennemi-là. Cet ennemi, c'était Saül, c'était le roi Saül. Pourquoi David ne s'attendait pas à ça? Parce que Saül était un de ses frères. Un de ses frères israélites. Ça venait du milieu du peuple d'Israël. Il n'était pas supposé avoir d'ennemis dans le milieu du peuple d'Israël. Mais David a dû fuir devant Saül, qui était son frère, pour sauver sa vie. J'ai parlé de ça la semaine passée, et cette semaine, c'est comme si Seigneur me donnait quelque chose qui va à la suite de ça. Parce que le plus étrange dans tout cela, c'est que pour David, la délivrance de Saül, qui était son ennemi, qui venait de l'intérieur du peuple, cette délivrance-là est venue des Philistins, de ses ennemis extérieurs. Ses ennemis extérieurs, qui étaient les Philistins, ont tué Saül, puis ça l'a délivré David de son ennemi intérieur. Quelquefois, Dieu a une façon étrange de travailler avec son peuple. Quelquefois, Dieu a des voies étranges pour travailler avec nous. Il se sert même des ennemis extérieurs qu'on a normalement, puis dans le cas de David, c'était les Philistins, il s'est même servi des ennemis extérieurs de David pour abattre l'ennemi intérieur. Parce que la priorité, c'était d'enlever du milieu d'Israël l'ennemi qui était là, qui était Saül. Mais Dieu a des voies étranges d'emmener sa manière à lui de faire les choses. On peut voir dans Jérémie, chapitre 30. Jérémie, chapitre 30, les versets 15 à 24. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités et du grand nombre de tes péchés que je t'ai fait souffrir ces choses. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Il parle de ses ennemis extérieurs. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Puis là, il continue comment que Dieu va délivrer son peuple de ses ennemis extérieurs. Il dit au verset 21, « Son chef sera tiré de son sein, son dominateur sortira du milieu de lui. Je le ferai approcher, il viendra vers moi, car qui oserait de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, il fond sur la tête des méchants. » Mais remarquez, les méchants qui parlent ici, ce n'est pas les méchants qui sont en dehors. C'est les méchants qui sont dans le peuple, au milieu du peuple d'Israël. Il dit, la colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Remarquez, les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Dieu a une façon bien spéciale de travailler avec son peuple. Les enfants d'Israël, quand ils sortaient d'Égypte, la première des choses qu'ils pensaient, quand Moïse leur a dit, vous allez aller dans la terre promise, une terre extraordinaire. Et Dieu va abattre tous vos ennemis devant vous autres. Ça va être un lieu où coule le lait et le miel. Les Israélites ne s'attendaient pas à passer par un désert avant d'entrer dans la terre promise. Ils pensaient que tout de suite, Dieu allait les propulser dans la terre promise. Dieu lui-même leur donnerait la défaite sur leurs ennemis. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Pourquoi? Dieu a jugé bon de conduire Israël dans le désert avant de les entrer dans la terre promise. Parce que dans le désert, c'est là qu'on a la victoire sur nos ennemis à l'intérieur de nous autres. Parce que Dieu ne peut pas donner la victoire sur les ennemis extérieurs avant d'abord de donner la victoire sur l'ennemi intérieur qui se cache à l'intérieur de nous. Dieu commence par l'intérieur. Ensuite, il peut agir à l'extérieur. On le voit dans la vie de David. Il a fallu d'abord que Saül, l'ennemi qui était à l'intérieur, soit enlevé. Et là, après, une fois que Saül est mort, là, Dieu a donné à David la victoire sur les Philistins. Après, il a remporté la victoire sur les Philistins qui étaient les ennemis à l'extérieur. Mais il a fallu d'abord que Saül, qui était l'ennemi à l'intérieur, soit vaincu. Mais on voit comment que Dieu, il commence toujours par l'intérieur. Il commence par ce qu'on ne s'attend pas. Parce que nous autres, la première des choses qu'on veut, c'est toujours que Dieu agisse de façon visible, manifeste. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Il commence à agir au niveau de l'intérieur. Et c'est ça qu'on va regarder. Quels sont nos ennemis à l'intérieur? Qui sont à l'intérieur de nous autres. Parce qu'on sait que les ennemis à l'extérieur, on les connaît, c'est Satan. Nos ennemis extérieurs, c'est Satan. Ce sont toutes ces œuvres de destruction. C'est la maladie, c'est la malédiction, c'est la mort, c'est la pauvreté, c'est l'asservissement, c'est les craintes, les tourments. Ça, c'est les ennemis à l'extérieur. C'est Satan. C'est toutes ces œuvres de mensonge et de destruction. Dieu veut nous donner la victoire sur notre ennemi qui est Satan, notre ennemi extérieur. Parce que l'image des Philistins, c'est l'image de Satan avec toute sa gang de démons qui viennent contre nous. Mais Dieu ne peut pas nous donner la victoire sur Satan et sa gang de démons avant d'abord de vaincre nos ennemis à l'intérieur de nous. Qui sont nos ennemis à l'intérieur de nous? On va en avoir quelques-uns. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 10 à 13. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, et moi, de Céphas. Rivalité, division. 1 Corinthiens 3, le chapitre 3, le verset 3 et 4. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, et des disputes. N'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Ces deux ennemis, la jalousie, la division, c'est des ennemis à l'intérieur de l'Église. Jacques chapitre 4, verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui guerroient dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu. Jalousie, rivalité, division, convoitise, envie, meurtre, toutes ces choses de la chair, Dieu dit, ce sont les ennemis de Dieu. Ce sont les ennemis intérieurs qui se cachent dans le peuple de Dieu. Puis Dieu, quand il voit ces ennemis-là, il ne peut rien faire d'autre. Il s'occupe premièrement, c'est la première des choses, il faut que ces ennemis à l'intérieur de nous soient vaincus avant qu'ils nous donnent la victoire sur nos ennemis extérieurs. Puis c'est pour ça que Dieu d'abord a conduit les enfants d'Israël dans le désert. Parce que dans le désert, c'est là où l'on a la victoire sur nos ennemis à l'intérieur de nous. Les ennemis qui se cachent à l'intérieur de nous. C'est dans le désert qu'on a la victoire, pas dans la terre promise. C'est pour ça que le désert est nécessaire pour le chrétien, puis que le désert est une bénédiction. C'est une bénédiction parce que c'est là que Dieu, pour employer un mot anglais, c'est là que Dieu deal avec nos ennemis à l'intérieur. Il négocie, il remporte la victoire sur nos ennemis à l'intérieur, dans le désert. C'est là que Dieu agit pour nous donner cette victoire-là. Jacques 4, versets 11 et 12. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. La médisance, le jugement d'autrui, c'est encore des ennemis au milieu du peuple de Dieu. Le verset 13, du même chapitre, Jean chapitre 4, verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville et nous y passerons une année et nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, ces choses mauvaises, de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas comme un péché. L'orgueil qui se cache au milieu des enfants de Dieu, ça dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu considère l'orgueil comme un ennemi. Dieu considère la jalousie comme un ennemi. Dieu considère la dispute comme un ennemi. Dieu considère la rivalité comme un ennemi. Dieu considère les luttes et les querelles, la médisance comme un ennemi. C'est son premier ennemi à abattre. Parce que Dieu est amour, puis Dieu ne tolère pas ces choses-là au milieu du peuple de Dieu. Jacques chapitre 2, versets 1 à 4. Mes frères, que votre foi à notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assieds-toi à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même des distinctions et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises. Des juges aux pensées mauvaises. Du favoritisme. Galates chapitre 3, le verset 2 à 5. Un autre ennemi qui afflige le peuple de Dieu de l'intérieur. Galates chapitre 3, le verset 2 à 5. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi. Un autre ennemi qui est dans le sein du peuple de Dieu, c'est l'incrédulité. C'est de vouloir retourner au légalisme, à penser que notre salut, notre salut dépend des bonnes œuvres qu'on fait. Ça, c'est du légalisme, c'est un manque de foi. Ça aussi, c'est un ennemi à Dieu, parce que Dieu ne peut agir qu'à travers la foi, qu'à travers la foi de ses serviteurs. Toutes ces choses-là, ce sont toutes des ennemis qui empêchent l'action de Dieu, qui arrêtent. C'est comme si Dieu, quand il voit ces ennemis-là au sein de son peuple, il ne combat même plus les ennemis à l'extérieur, parce qu'il y a un problème à régler d'abord. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, il dit en 1 Pierre, chapitre 4, le verset 17 à 19. 1 Pierre, chapitre 4. Versets 17 à 19. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Remarquez, va commencer par la maison de Dieu, par l'intérieur. Dieu va commencer à juger les ennemis qui se cachent à l'intérieur. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Le jugement ne commence pas par l'ennemi extérieur. Il ne commence pas avec le diable. Il ne commence pas avec les Philistins qui sont autour de nous autres. Le jugement commence avec le peuple de Dieu. Ceux qui font partie du peuple de Dieu. C'est là que le jugement commence. C'est là que Dieu commence à agir. Sa première action, c'est au niveau de sa maison. Parce qu'il faut qu'il enlève ses ennemis. Qui sont les choses du monde, qui sont les choses de la chair, qu'il faut qu'il enlève ces choses-là du milieu de son peuple. Parce que si ces choses-là sont au milieu de son peuple, il ne peut pas venir avec nous, il ne peut pas combattre. Dieu ne peut pas aller avec nous si on tolère ces choses-là, parce que si on tolère ces choses-là, on devient automatiquement ennemi de Dieu. Jean qui me dit, puis Jean va dire la même chose, celui qui veut être ami du monde, il devient ennemi de Dieu. Tu tolères la jalousie, tu deviens ennemi de Dieu. Dieu devient contre toi. Puis la première chose que Dieu va faire, c'est d'enlever cette jalousie-là. Parce que Dieu ne peut pas tolérer ça. C'est contre lui. Mais les premiers ennemis que Dieu va vaincre, c'est toujours les ennemis qui se cachent à l'intérieur de son peuple. Ceux de l'extérieur, c'est facile pour Dieu de les vaincre, ceux de l'extérieur. Son plus gros problème, c'est de vaincre ceux de l'intérieur. On voit ça dans la vie de Josué. Hein, Josué a commencé à rentrer dans la terre promise avec le peuple. Puis une fois que Moïse est mort, Josué a ouvert le Jourdain et il a amené le peuple d'Israël dans la terre promise. Et Dieu a commencé à donner la victoire à Josué sur les ennemis qui étaient à l'extérieur. Mais on voit un moment donné, Josué, chapitre 7, les versets 1 à 8. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées par... Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Donc, on voit que Josué a envoyé des gens pour vaincre la ville qui était devant lui. Josué a envoyé des Jéricho, des hommes vers Aï. Le verset 4 a dit, 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Aï, la ville de Aï. Les gens de Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim, et ils débattirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Au verset 6, Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent de la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple ?» pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Devant ses ennemis extérieurs. Josué ne comprenait pas pourquoi que Dieu n'était plus dans la bataille. Pourquoi que Dieu n'avait pas donné la victoire. Pourquoi? Tu as promis, Seigneur, que tu allais nous donner la victoire sur tous nos ennemis extérieurs, puis là, on vient de se faire battre à plat de couture. Qu'est-ce qui se passe? Dieu n'était pas énervé, lui. Josué était beaucoup énervé parce que là, Dieu n'était plus avec lui. Mais Dieu n'était pas énervé du tout. On le voit verset 10. Josué, chapitre 7, verset 10. L'Éternel a dit à Josué, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur avais prescrite. Ils ont pris les choses dévouées par interdit, les ont dérobées, les ont dissimulées et les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. » Remarquez, au milieu de vous. Les ennemis qui étaient à l'intérieur, si les ennemis à l'intérieur sont là, si Dieu voit des ennemis à l'intérieur de nous, il n'agit plus à l'extérieur. Parce que lui, sa première priorité, il veut avoir un peuple qui soit saint devant lui. Un peuple qui marche à sa suite. S'il voit ces choses-là, comme j'ai dit tantôt, les ennemis intérieurs, la jalousie, rivalité, querelle, dispute, animosité, envie, toutes ces choses-là, meurtre, orgueil, médisance, calomnie, toutes ces choses-là qui sont des œuvres de la chair, si Dieu voit ça, demandez pas à Dieu de faire des grands miracles, des grands prodiges, puis de vaincre Satan, puis de faire des grandes croisades d'évangélisation pour que des milliers d'hommes viennent à lui. Dieu n'agira plus s'il voit ces choses-là. Parce qu'il voit l'interdit au milieu de son peuple. Il voit des choses qu'il ne peut pas supporter. Parce que Dieu est saint. Dieu est amour. Puis ces choses-là, c'est contre son amour, c'est contre sa sainteté. Il ne peut pas, c'est ennemi contre lui. C'est que la première des choses, Dieu règle le problème intérieur. Comme il a fait avec les enfants d'Israël, ils ont emmené 40 ans dans le désert. Puis là, il a enlevé les jalousies qu'il y avait là. Il a, pendant 40 ans, il a constamment corrigé le peuple d'Israël de toutes les choses. Il ne pouvait pas aller avec Dieu. C'est la même chose avec nous autres, avec l'Église. Dieu doit vaincre d'abord les ennemis qui sont à l'intérieur. Si on veut voir les promesses que Dieu nous a données face à l'ennemi à l'extérieur, si on veut voir la terre promise que Dieu nous a promis, de nous délivrer de Satan, de vaincre Satan, d'amener la guérison, le salut, la délivrance au milieu de son peuple, il faut d'abord que ces choses-là soient vaincues, soient enlevées. Dieu n'a pas changé sa manière de faire. On le voit. L'ennemi qui se cachait au milieu du peuple d'Israël, les mêmes rivalités, les mêmes jalousies, c'est encore au sein de l'Église. L'ennemi n'a pas changé. Les choses qui tourmentaient le peuple d'Israël tourmentent encore l'Église. 2 Corinthiens 12. Versets 20 et 21. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, du trouble, tous les ennemis intérieurs que j'ai parlé tantôt. Paul, le grand apôtre Paul, craignait de trouver ces choses-là parmi les Corinthiens. Puis à cause de ça, il savait qu'il ne pourrait pas rien faire de plus. Il ne pourrait pas aller plus loin sans d'abord régler ces choses-là. Là, il dit au verset 21, « Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de la débauche et des dérèglements auxquels ils se sont livrés. » Paul savait que si ces choses-là étaient dans le milieu du peuple de Dieu, il ne pouvait rien faire. Il était obligé de s'humilier lui-même, il était obligé de s'humilier et de pleurer devant Dieu. Parce que Dieu ne pourrait rien faire. La première des choses que Dieu va régler, c'est ses ennemis intérieurs-là, pour qu'il enlève ses ennemis-là à l'intérieur. On n'a pas le choix. Puis la même chose est vraie pour l'Église. Si ces choses-là sont dans l'Église, Dieu se retire. Dieu n'agit plus. C'est comme Dieu agit à l'intérieur, parce qu'il va continuer à agir, il va continuer à corriger, à juger son peuple. Mais ça va être sa première action, ça va être de juger son peuple. Il n'agira plus à l'extérieur. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 1, Paul dit bien, « Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Remarquez ce qu'il dit. « Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les airs. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent de sorte qu'ils en tombèrent 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent les uns par le serpent. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. » À cause de ces ennemis intérieurs-là, Dieu est obligé d'emmener un jugement sur Israël. Puis l'apôtre Paul, il prend la même image. Il dit, ces gens-là, spirituellement parlant, ils ont tous bu au même breuvage spirituel qui était Jésus-Christ. Ils ont tous été baptisés en Jésus-Christ dans sa mort. Donc, il était en quelque sorte le peuple de Dieu, mais parce qu'il tolérait ces choses-là, au milieu d'eux, le jugement de Dieu tombait sur eux. C'est une image pour nous autres. Parce que nous, en Jésus-Christ, ça dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le jugement de Dieu est tombé sur Jésus-Christ. Si nous demeurons en Jésus, il n'y a plus de jugement sur nous. Mais il faut demeurer en Jésus. C'est là le problème avec l'Église. C'est que l'Église, oui, a accepté Jésus. Oui, a reçu ce que Jésus a fait à la croix, l'œuvre de sa croix. Mais il faut demeurer à la croix. Il faut que l'Église apprenne à demeurer à la croix. Parce que demeurer à la croix, c'est deux choses. C'est porter sa croix chaque jour, comme Jésus a demandé. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il porte sa croix à chaque jour. Porter sa croix, ça veut dire renoncer à son âme. Renoncer au désir de son âme, renoncer à soi pour recevoir son esprit qui coule de l'autel. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, coule sous l'autel. Il coule du sang de Jésus. Et si je demeure à la croix, premièrement, je demeure à la croix pour renoncer à moi-même, puis pour recevoir Christ dans ma vie, pour recevoir continuellement, chaque jour, après jour, après jour, son esprit. Il y a une relation journalière qui doit s'établir entre moi. Cette relation-là se situe à la croix. Mais le chrétien doit demeurer là, parce que c'est son seul lieu de protection, c'est sous le sang de l'agneau. Sous le sang de l'agneau, le jugement de Dieu ne peut pas l'atteindre, Parce que sous le sang de l'agneau, tu peux demeurer seulement sous le sang de l'agneau si tu renonces à toi-même, si tu renonces à tes désirs premièrement, et que tu reçois son esprit. Là, tu peux demeurer sous le sang de l'agneau et tu es protégé. Le jugement de Dieu ne peut pas l'atteindre. Mais si tu vagabondes en dehors du sang de Jésus, si tu retournes dans le monde, si tu laisses ton âme vivre à nouveau, les désirs de ton âme s'exprimer, eh bien, tu retombes sous le jugement de Dieu. Parce que tu n'es plus sous la seule protection. La seule protection, c'est le sang de l'agneau. Puis on doit vivre sous ce sang-là. On doit demeurer en renonçant à soi-même et en recevant l'Esprit de Christ continuellement, en recevant la vie de Christ. Je renonce à ma vie et je reçois la vie de Christ. Continuellement, tous les jours, je dois faire cela. Il faut que j'apprenne à demeurer là. L'Église doit apprendre à retourner à la croix. C'est sa seule sécurité. C'est là que l'ennemi intérieur, les ennemis intérieurs sont morts. Ils ne peuvent même plus s'exprimer. Quand on demeure à la croix, les ennemis ne peuvent plus s'exprimer. C'est quand on oublie et on néglige la croix qu'on retourne à laisser notre âme vivre, notre âme s'exprimer, à marcher. Quand je dis marcher selon son âme, c'est marcher selon sa pensée, sa sagesse, son vouloir à nous. Hein? Je veux faire ce que je veux. Je veux marcher selon ce que je pense être bon. Mais ça, c'est... Quand tu veux être un disciple de Jésus-Christ, tu dois renoncer à ta vie. Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois porter ta croix. Porter ta croix, c'est vraiment mettre son âme au désert. La conduire, mon âme au désert, à la croix. La laisser mourir là. C'est plus ma sagesse qui va décider ma vie. C'est plus ma pensée. Je laisse plus ma pensée être en premier. Je regarde à Jésus-Christ. Je détourne mes regards spirituels, mon esprit. Je le tourne vers Christ crucifié, de qui vient la vie. Mais je me détourne de mon âme. Je ne regarde plus à mon âme parce que mon âme a gardé la mémoire des choses du passé. Et j'ai déjà dit qu'en Jésus-Christ, quand tu reçois Jésus-Christ, ton esprit, la partie la plus intérieure de toi, qui était corrompue par le péché, est crucifiée à la croix. Ton esprit à l'intérieur est mort avec Christ à la croix. Et tu reçois un nouvel esprit qui est pur et saint. L'esprit de Jésus-Christ. Tu deviens une nouvelle créature. Ça, c'est au niveau de ton esprit. Mais ton âme, elle, qui est ta pensée, ta sagesse et ton intelligence, ton âme, elle, continue à vivre. C'est toi qui, à chaque jour, tu dois amener ton âme à la croix. Renoncer à ton âme. Parce que ton âme, elle, elle doit être purifiée constamment, renouvelée par la parole de Dieu. Tu dois constamment mettre les pensées de Christ dans ta pensée, la sagesse de Christ dans ta sagesse. C'est plus toi qui dois vivre, c'est Christ qui doit vivre en toi. Ça, c'est à tous les jours, je recommence, je vis, je porte ma croix et je reçois l'Esprit de Christ. C'est quelque chose que je dois faire à tous les jours. Sans ça, je m'égare très vite et les ennemis reviennent. Les ennemis de l'intérieur reviennent hanter mon âme, parce que mon âme ne peut pas plaire à Dieu. Ma chair ne peut pas plaire à Dieu par ses propres forces. J'ai besoin de la croix. J'ai besoin de mourir à moi et de recevoir la vie de Christ, recevoir l'âme de Jésus-Christ, recevoir la pensée de Jésus-Christ. Parce que Christ à la croix a été fait pour moi sagesse, a été fait justice, a été fait sanctification. Mais je dois demeurer à la croix. Quand je demeure à la croix, je suis sous sa ville de refuge, je suis protégé, sanctifié, justifié, assagi. Mais je dois apprendre à rester là. Parce que sans ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est que il va arriver la même chose qu'avec les enfants d'Israël. Il va arriver la même chose qu'on voit avec les Corinthiens et les Galates. Ce que l'apôtre Jean dit. La jalousie, la rivalité, toutes ces choses-là vont revenir. Parce que la personne n'est pas restée humblement à la croix. Tu ne demeures pas humblement à la croix tous les jours, ces choses-là de l'âme reviennent. Parce que tu ne la laisses pas mourir. Il faut à tous les jours que je ramène mon âme. Parce que mon âme est encore vivante. Puis si je ne l'amène pas à la croix, si je ne l'amène pas au désert, elle va vivre et elle va s'exprimer à nouveau. Puis elle va retrouver ses anciens patterns, ses anciennes façons d'agir qu'elle avait avant de connaître Jésus. C'est normal. La seule manière de vivre une nouveauté de vie, c'est que je dois prendre mon âme. Puis dire, tu t'en viens à la croix, tu restes là. Aujourd'hui, je te mets là. Je t'envoie au désert, comme j'avais déjà expliqué le bouc expiatoire qui s'en allait au désert. Je t'envoie au désert, puis je reçois constamment la vie de Jésus. Je reçois la nouvelle nature que Christ a pourvue pour moi. Christ à la croix a tout accompli. Il a pourvu pour moi un chemin tracé, des bonnes œuvres préparées d'avance, et je reçois par son esprit, je reçois ce chemin qu'il a tracé pour moi. Je reçois son plan qu'il a tracé pour moi, son temps d'agir, son temps d'action. Je reçois ça. Et quand je suis à la croix, je suis en sécurité. Et les enfants d'Israël, à un moment donné, ils s'étaient égarés, comme on l'a lu tantôt. Il y en avait 23 000 qui ont péri par l'exterminateur à cause qu'ils ont commencé à murmurer. Comment la guérison est-elle venue? Moïse a élevé un bois, il a mis un serpent dessus, il a élevé ça, il a dit que tous ceux qui regarderaient le serpent seraient guéris. Et Jésus reprend cette image-là, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé sur la croix. Et que tous ceux qui regarderaient Christ crucifié seraient guéris. En tant qu'enfant de Dieu, sous la nouvelle alliance, on n'a plus à mourir à cause de nos péchés, de nos ennemis intérieurs, on n'a plus à mourir à cause de cela. Parce que Jésus-Christ a payé le prix. Jésus-Christ est mort pour nous autres. Mais il faut que je confesse mon péché. Il faut que je renonce à ce péché-là. Parce que si je ne renonce pas, je reste sous la malédiction. Et là, la mort peut m'atteindre. Mais si je confesse mon péché, je reviens automatiquement sous la protection du sang. Ça dit, si quelqu'un a péché, qu'il confesse à Jésus-Christ. Et le sang de l'agneau nous purifie de tout péché. Alors, il y a comme une sécurité, mais il faut que j'apprenne à demeurer là. Il faut que j'apprenne à regarder, tourner mon regard constamment vers Christ crucifié. Parce que lui est la vie. Lui est la santé. Lui, il a tout pourvu à la croix. Lui, il va me garder de ses ennemis intérieurs-là, qui vont revenir ravager. Dans Ecclésiaste, dans le Cantique des Cantiques, l'écrivain biblique dit, « Gardez-nous des petits renards qui viennent ravager nos vignes. » Les petits renards qui viennent ravager nos vignes. C'est l'image de ces ennemis intérieurs-là qui veulent revenir hanter notre vie. Mais la seule manière d'être protégé, c'est de demeurer à la croix. À toujours, je commence en demeurant à la croix. Je mets mon âme, je renonce à moi et je reçois son esprit. C'est la seule manière. C'est jamais quelque chose d'acquis. Hier, je peux avoir marché avec le Seigneur, mais aujourd'hui, si je suis négligent, je peux à nouveau tomber dans le péché parce que, à cause de ma négligence, parce que j'ai négligé de me tenir à la croix. Alors, c'est pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qu'à tous les jours, je renouvelle. C'est comme une relation que j'ai avec Jésus constant. Et j'apprends à demeurer à la croix. C'est ma seule sécurité. Mais c'est la seule manière aussi que Dieu peut nous donner la victoire sur nos ennemis intérieurs. Pour que Dieu, comme il a fait avec David, que Dieu puisse aussi nous donner la victoire sur nos ennemis extérieurs, sur Satan, sur toutes ces œuvres de destruction. Parce que c'est pas normal qu'il y ait la maladie au milieu du peuple de Dieu. C'est pas normal qu'il y ait la pauvreté, la malédiction au milieu du peuple de Dieu. Mais on vit ces choses-là parce que Dieu a encore un jugement avec son peuple. Dieu voit encore la jalousie. Dieu voit encore la rivalité. En tant que serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on voit la jalousie au milieu du peuple de Dieu, ben Paul, son âme était brisée. Il était attristé parce qu'il savait que Dieu seul pouvait intervenir dans cette situation-là. Il savait que ça ne servait à rien d'entreprendre des grandes œuvres pour Dieu. Il fallait d'abord régler ce problème-là à l'intérieur. Régler le problème des ennemis qui se cachent à l'intérieur. C'est la première des choses. Paul s'est humilié. Paul a pleuré pour les Corinthiens. L'apôtre Jean va dire, lui, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu lui donnera la vie. Il faut que nous voyons ces choses-là dans le peuple de Dieu. On ne peut pas passer outre et dire, ça ne me regarde pas. C'est comme si Dieu veut qu'on prenne ces choses-là à cœur. Comme Paul a été obligé de s'humilier, de pleurer, pas parce que lui avait péché. Lui, Paul ne supportait pas la jalousie au sein de sa vie, ne supportait pas ces choses-là. Mais parce que ces choses-là étaient parmi les Corinthiens, il les a portées sur son cœur. C'est la même chose, l'apôtre Jean dit la même chose. Si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, prie que Dieu lui donne la vie. Mais il dit, viens, prie, parce que si ton frère continue dans cette voie-là, c'est dangereux, c'est une voie qui mène à la mort. Quelqu'un qui continue dans la jalousie, qui continue dans l'orgueil, dans l'incrédulité, c'est une voie qui mène à la mort. C'est une voie dangereuse. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut négliger. Si on voit des proches qui marchent négligemment avec le Seigneur, c'est dangereux. Leur vie est en danger. Leur vie spirituelle est en danger. Puis Dieu ne peut pas tolérer ça. L'apôtre Paul, il dit, je vais venir, puis je vais avoir une action énergétique. Je vais régler toute chose sur la déclaration de deux ou trois témoins, puis je vais corriger. Je vais prendre la verge, puis je vais corriger. Parce que Paul avait une autorité, c'était lui qui était l'apôtre, c'était lui qui avait commencé ces églises-là. C'est qu'il avait une autorité reconnue parmi le peuple de Dieu. Donc, il avait le devoir de corriger son peuple. Parce que il y avait cette autorité-là. David, on voit le roi David devant Saül, Saül qui voulait le tuer. Mais David n'avait pas l'autorité. Il était une autorité à venir. Il y avait juste l'appel de devenir chef, mais il n'était pas encore chef. David ne pouvait rien faire contre Saül, qui était, lui, le chef,
le roi
d'Israël. Il a fallu que Dieu lui-même intervienne, parce que David n'avait pas le droit d'intervenir dans cette situation-là. Chaque situation est différente, mais dans le cas de David, étant donné qu'il n'était pas l'autorité, qu'il n'avait aucune autorité pour agir face à ça, il est obligé de s'en remettre à Dieu seulement. C'est la même chose pour nous, des situations où on n'a pas l'autorité. Alors, il faut s'en remettre à Dieu. Mais si un jour Dieu nous donne une autorité sur un troupeau, ben là, on va avoir le devoir de reprendre. De reprendre les gens qui agissent la sorte.
Même si on n'a pas l'autorité, on peut prier.
On peut prier. Si on n'a pas l'autorité, on peut prier comme David a fait, prier pour que Dieu intervienne. Parce que Dieu va intervenir. Comme j'ai dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 28, il dit bien que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Remarquez ce que ça dit. Par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Quand Dieu juge son peuple, c'est pas pour l'envoyer en enfer, c'est pas ça. C'est un Dieu d'amour. Il nous a adoptés comme ses enfants. Puis quand Dieu juge son peuple, il le corrige, mais c'est par amour. C'est pas un rejet, c'est une correction. C'est comme un père et une mère qui corrigent leur enfant. Ils tueront pas leur enfant, ils vont le corriger pour l'emmener à la vie. Puis c'est la même chose qu'on voit ici. Dieu juge par amour. Mais il ne peut pas supporter ces choses-là. Comme j'ai dit, ces ennemis intérieurs-là, il ne peut pas les supporter. Fait automatiquement, il y a un jugement de Dieu qui tombe sur ces personnes-là. Puis la seule manière, c'est de discerner le corps de Christ, le corps brisé et le sang répandu. C'est au travers du corps brisé et du sang de Jésus, en demeurant à cette place-là, de mort à soi-même et de recevoir la vie de Christ, que nous-mêmes, on est épargnés de ces ennemis-là. Puis, c'est là que Dieu veut amener chaque enfant de Dieu. Dieu veut ramener son peuple à la croix. Puis si ces choses-là sont au sein du peuple de Dieu, c'est parce que le peuple de Dieu a négligé la croix. C'est pour ça que c'est si important de prêcher Christ crucifié, de rappeler Christ crucifié, d'amener le peuple de Dieu à nouveau à s'humilier devant le Seigneur, à renoncer à eux-mêmes, à renoncer à leur âme et à recevoir l'Esprit de Christ continuellement, continuellement, continuellement. C'est super important. C'est la seule manière que Dieu pourra à nouveau intervenir au milieu de nous.